Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au sommaire, le meurtre d'un adolescent de 16 ans au Lila, d'un coup de couteau à la poitrine. C'est un autre individu de 17 ans qui a été interpellé après l'avoir poignardé en pleine rue. Les deux jeunes n'étaient pas connus des services de police. Pour l'instant, les premières constatations ne permettent pas de connaître le mobile du meurtre. C'est la police judiciaire de Saint-Denis qui est chargée de l'enquête. 6 hommes d'un groupe d'ultra-droite sont jugés à Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Ils risquent 10 ans de prison. Parmi les personnalités potentiellement visées par leurs actes, Jean-Luc Mélenchon, qui sera entendu au cours des audiences. 2 moines intégristes ont été mis en examen pour avoir tenté de mettre le feu à des antennes 5G dans le Rhône. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits, affirmé qu'ils voulaient protéger la population des effets néfastes de la 5G. Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Emmanuel Macron sort le carnet de chèques en grand à 7 mois d'élection présidentielle. Pas un déplacement sans l'annonce d'une subvention ou d'une nouvelle dépense pour l'exécutif. Nous avons fait le compte, ce sont près de 6 milliards d'euros qui ont été promis depuis le début du mois de septembre. Alors Emmanuel Macron est-il en train de cramer la caisse, comme le dit Valérie Pécresse, on en débat ce soir. De son côté, Éric Zemmour poursuit sa montée dans les sondages. Il serait à 11% des intentions de vote. Selon l'Institut Harris Interactive, soit au même niveau que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen enregistre une baisse à 18%, tandis qu'Emmanuel Macron se maintient à 23%. La patronne du Rassemblement National estime qu'il n'y a aucune chance que celui qui est toujours polémiste soit élu, car il n'est pas en capacité d'unir la nation, dit-elle. Alors jusqu'où peut aller Éric Zemmour? On l'entendra ce soir. Il demande notamment à Emmanuel Macron de quitter le commandement intégré de l'OTAN et de ne pas participer à un sommet organisé par Joe Biden au mois de décembre, baptisé le sommet des démocraties. Joe Biden, justement, le président américain qui a à peine évoqué ses alliés, notamment la France, lors de son allocution devant l'Assemblée des Nations Unies. Le gouvernement français continue de dire sa colère. On va écouter d'abord Florence Parly, puis on écoutera aussi la réaction de Nicolas Sarkozy, et on débat de ces sujets d'actualité avec mes invités. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude. Bonjour. Nous sommes avec Maître Golnadel. Bonsoir, vous êtes avocat. Nous sommes avec Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir. Et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de choses au menu ce soir. On commence par cette crise entre l'Australie, les États-Unis et la France. D'abord, la colère de Florence Parly et puis le soutien de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron. Écoutez.
Vous avez tout à fait raison. Il s'agit bien plus que d'une rupture de contrat industriel. Il s'agit bien plus de la remise en cause d'un contrat d'armement entre la France et l'Australie. C'est une rupture de confiance entre alliés et c'est un triple tournant stratégique pour nous, les Européens. Nous avons appris cette annonce de dénonciation quelques heures avant la dénonciation publique. La montée en puissance de la Chine, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la propulsion nucléaire qui ne nous a pas été demandée. Et ce qui pose problème, c'est la souveraineté.
Moi, je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences.
Voilà pour les mots de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui soutient Emmanuel Macron. On en débat ce soir, c'est parti pour Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, bienvenue à tous. On évoquera cette crise entre la France, les États-Unis et l'Australie dans un instant. Mais d'abord, ce meurtre au Lila dont je vous parlais il y a un instant. Hier soir, un adolescent de 16 ans a été poignardé par un autre de 17 ans. On ignore le mobile de ce meurtre. La victime originaire de Bagnolet et le suspect qui réside au Lila ne sont pas connus des services de police. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département. Sur place, tout de suite, on rejoint Régine Delfour et Olivier Gangloff. Régine, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé hier soir?
Oui, Laurent, c'est ici, dans ce passage qui donne dans la rue de Noisy-le-Sec, que le drame s'est produit. Hier, en fin de journée, un jeune homme de 16 ans, scolarisé dans un lycée de Montreuil, rentre de son entraînement de football. Il est accompagné de quelques amis lorsqu'il croise un autre jeune âgé de 17 ans, lui scolarisé dans un lycée ici au Lila. Une altercation a lieu entre les deux. Le jeune homme de 17 ans porte un coup de couteau en pleine poitrine. Le jeune homme de 16 ans s'écroule quelques mètres plus loin, mortellement touché. On voit encore ici dans le passage des traces de sang. Le suspect, lui, est interpellé quelques minutes plus tard sur un vélo. Il est placé en garde à vue. Les deux jeunes sont inconnus des services de police. Alors ce matin, dans le lycée de l'agresseur présumé, les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait en ne faisant pas cours. La direction, quant à elle, a préféré laisser le lycée ouvert.
Merci pour ces précisions, Régine Delfour et Olivier Gogloff. On va écouter justement le témoignage d'un des professeurs de ce lycée dans lequel le jeune homme était scolarisé.
On est épuisé et on est très triste surtout d'avoir eu raison. Ça fait maintenant des années qu'on alerte les pouvoirs publics, notre hiérarchie immédiate, plus lointaine, le gouvernement, pour dire qu'on a un problème de violence adolescente sur le territoire où l'on sert. Vous savez, les enseignants, on est le premier visage de la prise en charge des enfants par l'État et on fait de notre mieux. Et le problème de la violence adolescente est un vrai sujet qui mérite d'être discuté de bout en bout. Pas simplement par l'angle judiciaire, policier, mais aussi en comprenant qu'est-ce qui peut pousser à ce qu'il y ait un phénomène aussi répété, aussi présent.
Voilà pour ce témoignage. Maître Golnadel, cette violence, ultra-violence entre jeunes, on la voit sous toutes ses formes. Là encore, avec un autre exemple, un coup de poignard en pleine rue, pour une raison qu'on ignore. C'est un phénomène endémique dans notre société aujourd'hui.
Autant de faits divers quotidiens font fait de société. Alors il y a beaucoup d'explications. Moi, je dis maintenant que plus de vivre ensemble, c'est moins de savoir vivre, clairement. À partir de là, la violence elle-même, avant les mômes se cassaient la gueule, j'ai connu ça, maintenant on sort un couteau. Il y a une progression, si vous voulez, dans l'utilisation de la violence, dans la fascination de la violence, peut-être aussi le rôle peut-être des films, des vidéoclips, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un spécialiste. Une chose est sûre, je suis maintenant heureux d'apprendre que les enseignants sont satisfaits de voir la police près des établissements, parce qu'il y a 20 ans, lorsqu'ils voyaient un flic à 100 mètres autour d'un lycée, ils hurlaient au charron. Il y a quand même la réalité plus forte que l'idéologie, c'est tout.
Absolument. Céline Pina, sur la violence des jeunes.
Maurice Berger a beaucoup travaillé là-dessus et c'est un psychiatre qu'on a pas mal entendu ces derniers temps, justement à cause de ces phénomènes récurrents, et qui lui explique toujours que, d'abord, la première chose, c'est une absence de parole. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il n'y a plus de médiation. Autrement dit, avant, on échangeait des insultes, éventuellement peut-être quelques coups de poing, des fois même pas. Aujourd'hui, l'échange de parole est très court et porter des coups fatals arrive quasiment tout le temps. Et lui explique que les jeunes qui l'accueillent, qui sont des jeunes susceptibles de commettre ce type d'actes, sont très souvent marqués par la violence et marqués d'abord par la violence familiale. Ce sont souvent des enfants qui ont vu le père frapper la mère et qui donc sont au monde avec cette idée qu'on existe et on ne se fait respecter que si on est capable d'exercer de la violence. Et en fait, ce sont des jeunes qui n'ont aucun rapport à la loi. Lui-même le dit, ça peut être très déconcertant pour un adulte. La seule loi qu'ils connaissent, c'est la loi du plus fort. Et ce constat-là, quand vous voyez des jeunes qui sont au lycée, donc qui sont censés être passés par des lieux qui sont des lieux institutionnels où on est censé justement apprendre à mettre à distance sa réactivité, où on est censé apprendre à utiliser le langage plutôt que la violence, c'est aussi un terrible signe d'échec puisque ce ne sont pas des enfants qui sont censés être ascolarisés. Et enfin, la dernière chose, moi, dont je me souviens et qui m'a souvent choquée, c'est qu'à une époque, et je l'ai encore entendu la dernière fois sur l'histoire du Bataclan, vous avez deux personnes, le père d'un des assassins et le père d'une des victimes qui dialoguaient ensemble. Et le dialogue était surréaliste puisque dès les trois premières minutes, le père de l'assassin dit « Mais mon fils est une victime et moi aussi je suis une victime » devant le père de l'assassiné qui, lui, ne réagit absolument pas en disant « Bah oui, c'est pas faux ». Et là, vous regardez, vous dites « Non, à un moment donné, il faut arrêter l'absolu relativisme. Il y a des coupables et il y a des innocents. Il y a de vraies victimes et il y a des gens qui portent les coups. » Et un des autres problèmes, c'est cette absence de retour sur soi dont parlait Maurice Berger, qui disait que souvent ces jeunes qui sont dans l'hyperviolence n'ont absolument aucune conscience d'avoir fait ce qu'ils ont fait, y compris le psychiatre disant à l'un d'eux, mais enfin imagine la mère de celui que tu as tué, et l'autre lui dire, bah, dans la vie il faut avancer, de toute façon il vaut mieux qu'elle passe à autre chose. Et lui était complètement sidéré par cette absence de retour sur soi de ces gamins-là.
Et ni remords ni regrets. En
fait. C'est ça, et expliquer aussi que le seul moyen de pouvoir faire émerger une prise de conscience, c'était d'arrêter tout et d'empêcher ces jeunes d'agir. Le seul moyen pour eux de les faire réfléchir et de les faire passer à la parole est justement parfois l'enfermement, peut-être sans doute pas pour toute la vie, mais d'être beaucoup plus strict et beaucoup et plus cadré. Sévère dans dans la réponse à apporter.
Jean Garrigue, votre
commentaire. Oui, je crois qu'effectivement, ça n'est pas un fait divers. Quand les faits divers se reproduisent à ce point, y compris là dans un milieu qui n'est pas celui des quartiers, comme on dit, et qui n'a rien à voir avec les bandes, les règlements de compte qu'on a
pour
vu
l'instant, de ce que l'on
semble-t-il n'a rien à voir avec tout ça, ça veut dire qu'on est en présence d'un fait de société qui est grave et qui renvoie à la perception par... pas simplement par les jeunes, mais par l'ensemble de la société, de ce que signifie le respect d'autrui, le respect de la vie d'autrui et les valeurs justement de faire société, de vivre ensemble, de savoir vivre ensemble. Et incontestablement, pour des tas de raisons qui tiennent à la fragmentation, l'émiettement de notre société, à la dilution d'un certain nombre de valeurs, à cette espèce d'indulgence que la société a généré depuis une trentaine d'années par rapport notamment à ces faits de violence, eh bien, tout ça s'est désagrégé. Et il y a, alors effectivement, l'influence des réseaux sociaux, tout ce que vous voudrez, mais il y a surtout cette dilution, justement, de valeurs cardinales, de valeurs fondatrices, de valeurs qui nous font vivre ensemble. Ce n'est pas simplement, d'ailleurs, des valeurs politiques de la citoyenneté, ce sont des valeurs morales. Et tout ça a été complètement désagrégé. Et il ne faut pas s'étonner que les barrières se rompent. C'est-à-dire que, comme le disait Gilles William, auparavant, ça pouvait être un petit coup de poing, et maintenant, on sort un poignard, parce qu'il n'y a plus du tout ce sentiment, cette impression de ce qu'on ne peut plus faire, de ce qui est tabou dans une société. Je crois que là, il y a tout un travail de reconquête, de remontada, comme dirait Arnaud Montebourg, mais en ce qui concerne justement ce vivre
aussi, ensemble. Jean-Claude Dacier.
Moi, je crois que beaucoup de choses ont été dites, et exactes, excellentes. Mais il reste ce constat dramatique, en effet, qui est que pour une cigarette que vous refusez, pour une place de parking que vous refusez, ou que, bon, pour un téléphone portable, pour un mauvais regard, dans la France d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un phénomène strictement français ou si on peut l'étendre à des pays voisins. Toujours est-il que dans notre pays, vous risquez votre vie, vous risquez ce qu'on ne risquait pas il y a 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire l'utilisation au bout du bras d'une arme. Au lieu que ce soit un coup de poing, mon Dieu, je dirais qu'on peut accepter et comprendre. Là, vous avez maintenant quelqu'un qui risque au fond quoi ?
La violence n'est jamais une solution, Jean-Claude.
Certes, mais elle a toujours existé, plus ou moins. Sauf que là, vous avez un gamin, il a quel âge ? 17 ans, 18 16
ans,
ans.
17 ans.
16 ans, c'est-à-dire qu'il prend, il risque une... Il compromet sa vie, il compromet sa liberté, et il n'est hélas pas le seul dans la France d'aujourd'hui. C'est un désastre de l'éducation, vous avez raison. Moi, je risque aussi l'explication...
Alors, l'éducation nationale et des parents, les deux.
Non, je parle en priorité les parents.
Les parents.
Et l'éclatement des familles. Et l'éclatement des familles. L'éducation nationale, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'a pas un métier facile. Mais c'est un des grands maux de notre société. Et qui devra essayer, mais ça passe par l'éducation. Évidemment, on peut toujours dire, ce gamin de 17 ans, son comportement est inacceptable en prison. Bon, certes, il aura probablement droit à quelques années de privation de liberté. Reste néanmoins que le désastre éducationnel est présent, qui nous accompagne, et ce n'est pas un phénomène très gai.
Et les profs ont alerté depuis des mois, visiblement.
Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Les profs ne peuvent pas être derrière chaque élève quand ils ont la sonne de la sortie.
Maître Golnadel.
Je suis convaincu qu'il faut avoir un regard de surplomb par rapport à ça. Le département de la Seine-Saint-Denis est un département particulier, qui pose des problèmes particuliers et qui pose la question effectivement de l'archipélisation de la France. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je suis convaincu que c'est cette barbarie à visage urbain, parce que faut pas porter un regard aseptisé sur la société. Moi, l'école, ça a toujours été violent. Hein. Très clairement. Mais cette barbarisation des choses est un phénomène de tribalisation. L'État disparaît et la nation disparaît.
Céline Pina, vous êtes d'accord avec ça ?
Ce qui est intéressant, justement, dans le travail de pas mal de psychiatres, c'est qu'ils expliquent, justement, d'habitude, l'éducation, normalement, c'est vous libérer un enfant, c'est-à-dire vous lui apprenez à parler, à penser par lui-même, vous lui apprenez à choisir son chemin, à essayer de construire son destin, et petit à petit, à vous quitter. Or, la tribalisation ou la clanisation, c'est au contraire, tout ce que vous produisez doit vous ressembler. Autrement dit, l'enfant doit être le reflet d'un nous fantasmé. Et ça empêche finalement toute possibilité d'expression individuelle. Et donc, tout d'un coup, vous, sur vos épaules, vous avez la charge de tout le clan. Donc, si on vous regarde mal, on insulte votre mère, vos ancêtres, voilà. Et ça rend ça donne des réactions extrêmement violentes. Ça, c'est une première chose si on est dans ce cadre-là. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a jamais de barrière posée. Or, tout le monde vous dira que finalement, sanctionner des comportements entre guillemets asociaux permet justement d'éviter d'en arriver sans doute à ce type d'acte. Or, par exemple, quand vous avez un souci à l'école, si vous discutez avec les responsables, ils vont vous dire « oui, c'est vrai, on devrait éloigner cet enfant, mais le problème, c'est qu'en fait, comme on est obligé de les accueillir quasiment quoi qu'ils fassent, si on n'en est pas à un stade de meurtre, comme il y en a deux ou trois qui tournent dans l'académie et qui sont 10 fois pires que ceux qu'on a...
Ils vont de lycée en lycée.
Voilà, on va garder ceux qu'on a parce que dans le fond, ils sont peut-être moins pires. Et du coup, vous avez à l'intérieur même de l'endroit... moi, je me souviens d'un jour, un de mes enfants me disant « mais tu me dis, maman, de t'adresser aux adultes, mais comme les adultes ne font rien, il faut bien qu'à un moment donné, on se serve un peu de nos poings. » Et c'est très, très compliqué et d'ailleurs quasiment impossible de leur dire non. Parce que de toute façon, il y a un moment où ils vous disent « t'es pas à ma place ». Donc, c'est compliqué. Et la dernière chose, c'est qu'à la fin, le méchant est fascinant. Dark Vador, il est bien plus fascinant que Luke Skywalker. C'est lui qui emporte et qu'enfin la liberté et la dignité, c'est très dur. Ça demande de prendre sur soi, ça demande de s'empêcher. Plus on est jeune, plus on a du mal à s'empêcher.
On fait une petite pause, on se retrouve. Dans Punchline, on se retrouve avec Jean Garrigue, Céline Pina, Maître Golnadel et Jean-Claude Dacier. On évoquera cette hyperviolence des jeunes. On évoquera aussi ce que dit Éric Zemmour, qui était évidemment ce matin sur notre antenne, notamment sur l'affluence dans ces réunions. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Maître Golnadel, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va évoquer Éric Zemmour, le phénomène Éric Zemmour. Un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge le donne aujourd'hui à 11% d'intention de vote. Au niveau de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est à 18%, Emmanuel Macron à 23%. Ce qui est notable, c'est que Marine Le Pen baisse dans ce sondage. Visiblement, Éric Zemmour prend un petit peu à Marine Le Pen et un petit peu à Xavier Bertrand, qui lui se trouve à 14%. Alors évidemment, la grande question, c'est sera-t-il candidat ou non ? Est-ce qu'il réussira à réunir les 500 parrainages qu'il lui faudra ? Je lui ai posé la question ce matin, écoutez ce qu'il dit sur le fait qu'il y a des gens qui le poussent à se présenter.
Si vous voulez, il y a des gens qui, depuis des mois, me poussent à être candidat. Ils pensent que je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et ils veulent absolument me donner le plus de chances d'y aller dans de bonnes conditions si je décide d'y aller. C'est absolument magnifique ce qu'ils font. Leur enthousiasme me fait chaud au cœur. Simplement, c'est pas moi qui les ai commandités. Maintenant,
vous ne les empêchez pas non plus ?
Non, je ne les empêche pas non plus.
Il n'y a pas eu de papier d'avocat que...
Non, je ne les empêche pas non plus, vous avez raison. Mais parce que je n'ai pas dit que je ne serais pas candidat, je n'ai pas refusé. Je dis, j'observe, j'analyse, je prendrai ma décision au temps idéal pour moi. Pardonnez-moi,
oui.
C'est moi qui ai le droit de choisir mon moment.
Bien sûr.
Bon.
Vous vous comparez au maître des horloges peut-être ?
Non, je suis maître de rien du tout. J'essaye simplement de régler mon pas comme je l'entends et de ne pas me faire instrumentaliser par les uns et les autres. les autres.
Le mois de novembre, c'est un bon mois. C'est là que François Mitterrand en 80, Chirac en 94.
Oui, c'est vrai. C'est le mois classique des déclarations de candidature. Sarkozy aussi, je crois. Maintenant, il y a une petite différence avec moi, c'est qu'eux, ils avaient une machine partisane. Maintenant, vous avez vu, vous le dites vous-même, il y a des gens qui s'organisent formidablement et qui vont finir par faire rougir les partis concurrents, surtout dans l'état pitoyable dans lequel ils sont.
Céline Pina, alors, Éric Zemmour, comme on le dit, en promo ou en campagne? C'est un candidat qui commence, parle là?
Il commence par dire quand je et il se rattrape en disant si je. Donc, ça pourrait être un lapsus très révélateur. J'imagine, quand on parle comme ça, c'est quand même compliqué à la fin de ne pas être candidat. 11%, ce n'est pas 4% non plus. Il se passe manifestement quelque chose. Je trouve que ça a été très bien analysé par l'ancien Premier ministre dans le JDD, Manuel Valls, qui dit « Mais en fait, ce que porte Zemmour est révélateur de l'état de la France ». Et là-dessus, je trouve qu'il ne se trompe pas. La question, c'est est-ce que la réponse qu'apporte Zemmour est-elle à la hauteur du diagnostic qu'il pose? Et peut-être que là-dessus, on peut beaucoup plus s'interroger.
Pour l'instant, il pose beaucoup le diagnostic et il apporte assez peu de solutions. Hein.
Tout à fait. Mais d'abord, dans un premier temps, c'est assez normal. Il n'a pas intérêt à sortir tout de suite du bois, sinon il va se faire dépouiller en race campagne. En revanche, ce qu'il dit de l'état de la France est inquiétant et mériterait qu'on s'y accorde, puisque visiblement, lui, ce qu'il explique, c'est que finalement, les gens qu'il vise sont ceux qui sont sortis du champ politique, sont des gens à qui il n'y aurait pas d'offre politique qui correspondrait et que lui pourrait amener. Ce qui devrait faire peur à Marine Le Pen, qui manifestement n'arrive pas à capitaliser sur ces gens-là. Et lui, il fait pour l'instant un diagnostic qui est très clair, où il explique que la partition de la France fait réagir les Français, que les Français attendent que quelqu'un leur en parle et puisse leur proposer des solutions là-dessus. Lui, il en reste à la question de la partition. Bon, c'est une position qui est facile. Il faudra un jour en sortir. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à penser que cet homme-là n'est pas en train de préparer sa candidature, d'autant que finalement, les appareils politiques dont il parle aujourd'hui vont très, très mal.
Ils sont quasi exsangues, Jean-Claude Dacier.
Bah, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il sera candidat, évidemment, sauf s'il n'avait pas les 500 signatures, ce que je n'envisage pas une seconde.
Pourquoi? Parce que les maires lui donneront
oui,
sans marguer.
Enfin, il y a combien de communes en France? 38 000, 37 000. Donc s'il ne trouve pas 500. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, au niveau des maires, l'écho que manifestement sa candidature rencontre dans le pays. Ça me paraît assez abusif et erroné comme raisonnement. Donc il aura ses 500 signatures. Je pense qu'il aura aussi l'argent qui arrivera, peut-être moins que d'autres, mais il aura les moyens. Et il a envie, c'est clair, de se présenter. Il a créé une chaîne Internet. Il y a un extrait, d'ailleurs, cet après-midi, qui est repris ici ou là, où il donne un certain nombre de conseils. Il regrette la posture de Macron dans l'affaire des sous-marins. Il est déjà, non plus dans la promotion de son livre, il fait les deux à la fois, il fait campagne. Et c'est vrai qu'il a commencé à suggérer. Il parle, c'est vrai, pour l'essentiel, des problèmes liés à l'immigration. Il a, comme d'autres, confirmé qu'il fallait au minimum suspendre. Un an, deux ans, trois ans, on verra. Il a confirmé, c'est ce qu'il dit depuis longtemps d'ailleurs, que le regroupement familial était une erreur énorme de Giscard, que le nombre de migrants qui nous assaillent aujourd'hui rend la situation quasiment ingérable. Il veut aussi, c'est plus lourd, remettre en cause le droit du sol. Ça fait déjà un programme. Ça suffira peut-être pas, mais il n'est pas de, à mes yeux en tout cas, il ne fait pas de doute que l'immigration et tout ce qui est lié à ce phénomène migratoire s'occupera, sinon le centre de la campagne, du moins une place très importante. Alors il y a le sondage, 10%, 11%, disons qu'on est dans les mêmes eaux, mais ce qu'on voit quand même clairement, c'est que Marine Le Pen baisse. Elle ne baisse pas que d'un point. Là, en fait, depuis maintenant un mois et demi, elle baisse de 2-3 points. Xavier Bertrand, comme on l'a dit,
baisse. Au fur et à mesure que lui monte. Hein.
Oui, absolument. Xavier Bertrand perd aussi un point. Le voilà à égalité avec Mélenchon. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà dans la course. Et que sa candidature...
Sans être candidat.
Oui, sa candidature, elle est d'ores et déjà considérée officielle, comme crédible par un nombre important de Français. Alors, on verra la suite. La campagne est longue. c'est dans 200 jours. Oui. Bon, ça paraît demain.
Tout peut arriver. Jean-Éric, bon. Historien.
Oui, il est incontestable qu'Éric Zemmour comble un vide, que, comme l'avait comblé par exemple Beppe Grillo en Italie, sur des thématiques différentes, hein, mais dans un positionnement d'outsider et qui fait que sa parole est crédible parce que précisément il est un candidat anti-système. En fait, il s'inscrit à mes yeux dans une vieille tradition de la vie politique française qui est celle de l'homme providentiel d'extériorité. Moi, je le rattacherais au général Boulanger des années 1880 et j'ai fait une tribune dans Le Monde pour parler de ça. Mais c'est donc quelque chose qui est caractéristique de cet esprit frondeur et protestataire des Français par rapport à un système. J'ai un peu plus de mal par rapport aux idées qu'il porte, car j'estime que si les diagnostics sont très souvent justes, les solutions qu'il met en avant, comme par exemple l'obligation de prénom français, me semble un tout petit peu caricatural. Et je me demande si cela est à la mesure d'un candidat à la présidentielle. Mais ça, il appartiendra aux Français d'en juger. Pour l'instant, ce qu'on peut voir sur le plan, sur un plan plus pragmatique d'arithmétique électorale, c'est que manifestement, il s'installe dans une partie de l'électorat présumé pour Marine Le Pen. Il prend des voix à Marine Le Pen, d'autant plus qu'on le sait, depuis les élections régionales, et ça avait commencé même avant, il y a du côté de Marine Le Pen un affaiblissement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un doute.
Oui. Du côté des militants.
Il y a un doute. Donc là, alors, ça fait une comment dire, je terminerai juste là-dessus, sur cette question juste de campagne électorale. Il y a une sorte de jeu de balance qui ferait qu'éventuellement, si Éric Zemmour montait encore et s'il prenait encore plus à Marine Le Pen, ce serait éventuellement un candidat des Républicains qui pourrait en profiter et se retrouver au-dessus de Marine Le Pen à la perspective du second tour. Ce qui rendrait le second tour, j'allais dire, beaucoup plus ouvert qu'on ne peut le penser aujourd'hui.
Que l'affiche Macron-Le Pen. Voilà. Maître Golnadel, sur Éric Zemmour, candidat selon
D'abord,
vous...
je voudrais faire une remarque.
Allez-y.
C'est que la photo d'aujourd'hui, c'est-à-dire 18% pour Marine Le Pen et 11% pour Zemmour, ça fait quand même 29%. 29% qui considèrent quand même que le premier sujet à traiter, c'est l'immigration, en lien avec l'insécurité. Ça fait quand même maintenant beaucoup de moustaches à dessiner pour les humoristes d'extrême-gauche. Hein. Ça veut dire, plus
cette
sérieusement, que
cette moustache qui a été dessinée sur
courant,
le portrait de Zemmour.
Ce courant...
Oui, par un humoriste de France Inter.
Voilà, oui, pardon, excusez-moi.
Non, j'explique. Je décrypte votre langage codé.
Merci d'avoir traduit.
Maître Golnadel, allez-y.
Ça veut dire que ce courant-là est un courant qui n'est plus marginal et il n'existe plus véritablement de surmoi qui empêche de dire que l'immigration massive, invasive, est un vrai problème pour la France. Ça, c'est acquis. C'est acquis. Et que Zemmour soit à 11%. Lui qui sentait le souffre et qui a été quand même beaucoup malmené médiatiquement et judiciairement, ça en dit long sur l'état d'exaspération de la France. À partir de là, la manière dont vous lui avez posé la question, presque au sens de la torture, pour savoir s'il allait se présenter ou pas, bon, sous la pression de mes amis, c'est un peu convenu.
C'est un peu convenu.
C'est indigne de son intelligence. Donc, il faut bien, il veut choisir
le moment.
Il cultive le désir.
Il en profite.
Malheureusement, c'est un exercice obligatoire. Bien. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il va y aller. Et si j'en avais un, comme maintenant, effectivement, il a une sorte de satisfecit. Alors, le problème qui m'est posé, pour moi qui fait le même constat que les deux candidats que je viens de citer, c'est effectivement l'utilité de tout ça. Parce que si le résultat, c'est qu'au deuxième tour, il n'y a aucun des deux représentants de cette tendance réaliste, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est un vrai problème qui est posé et que, auquel je n'ai personnellement aucune réponse.
Parce que Marine Le Pen, sur cette thème-là, a fait deux quand même, il y a 4 ans, pas tout à fait. Et là, ils sont deux sur, je n'irai pas sur le même morceau, ne soyons pas vulgaires, mais ils sont quand même deux. Et il y a Dupont-Aignan qui est encore dans le coup, je ne sais pas très bien ce que lui donnent les sondages aujourd'hui. D'accord. Néanmoins, il y a du monde sur ce créneau-là. Même Barnier,
et la
même
droite,
Barnier
voilà,
réclame
et
la suspension de l'immigration. Donc, ça, tu as raison, ça va fractionner.
Il aura la crédibilité d'avoir osé toucher au sujet à l'époque où il était encore incandescent. Et il a quelque chose, c'est-à-dire que oser aujourd'hui reparler du droit du sol... c'est en fait le seul positionnement qui reste pour être crédible auprès des Français. Il ne faut pas oublier que le problème, par exemple, du président de la République actuel, c'est qu'il a beaucoup promis. Par exemple, il s'est positionné en disant il faut pouvoir renvoyer un certain nombre de clandestins chez eux, il faut pouvoir limiter l'immigration, sauf que cela n'a jamais été suivi d'effet. Donc lui propose une solution, on en débat, mais en l'occurrence, les Français se disent tiens, ça, finalement, on ne nous en a jamais parlé.
La solution, c'est le référendum aussi. Hein. L'usage au référendum.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il protège un petit peu ? Mais il y a quand même un souci, c'est chez trois personnages, que ce soit le président actuel, Marine Le Pen ou lui, qui est quand même leur totale déconnexion avec la réalité du pays. On a envie de leur dire où sont vos casemates. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont très peu d'inscriptions territoriales. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron faisant sa tournée « Je fais un grand oral dans tous les départements français ». Ce qu'il démontrait surtout, c'est qu'il ne connaissait pas ce pays dans sa chair et dans sa tessiture. Et là, on a des gens qui ont des visions extrêmement théoriques. Par exemple, Marine Le Pen, à chaque fois qu'elle avait des candidats, on voyait des candidats sortir du chapeau sur les territoires. Ils faisaient un tour de piste, ils disparaissaient. Ça a encore été le cas, là, pendant les élections régionales. C'est où sont normalement un pays, vous le structurez parce que vous avez des relais locaux. Là, aujourd'hui, c'est où sont les relais locaux ? Où sont les militants ? Où est la réalité de cette France qui risque de voter une fois de plus pour un fantasme et quelque part, dès le lendemain, de se mettre à lui refuser le pouvoir qu'elle vient à peine de lui donner.
Qu'on l'écoute sur la question que je vais poser de la candidature un peu du clown, parce que vous évoquiez Beppe Grillo, il y a cette éventualité d'une bulle, effectivement, médiatique qui retombera. On va l'écouter sur cette question précise, le clown.
Il y a beaucoup de papiers sur le thème « c'est un clown », etc. « C'est la revanche des clowns ». Maintenant, qui est un clown ? Moi, je veux bien qu'on me traite de clown. Après tout, j'ai l'habitude d'être insulté. Mais moi, je trouve que les clowns, ce sont des gens qui, depuis 40 ans, ont fait ont provoqué toutes les catastrophes possibles, qui ne nous ont pas protégés contre l'invasion migratoire, qui ne nous ont pas protégés contre la désindustrialisation.
Moi, ceux qui nous dirigent depuis 30 ans. Quoi.
Exactement, sont eux les clowns. Alors, ils se parent des atours de la pseudo-compétence économique, mais en vérité, ils ne comprennent pas que leur temps de technocrate triomphant est révolu.
Alors, le temps de technocrate est révolu, Jean-Claude ?
Non, je crois pas.
C'est relativement pertinent.
Oui, alors, Jean-Claude, et après Maître Gonadel, rapidement.
C'est caricatural et un peu violent. Et je pense pas que ce soit, au fond, son intérêt de répondre de cette façon. Encore une fois, on a un problème, je dirais, dans l'immédiate, j'irais plus que de police, mais de répression. Parce que le président de la République et le Premier ministre, dans ces domaines-là, ne sont pas très efficaces. Et ce n'est pas leur préoccupation majeure, comme on dit le régalien. Il s'est emparé de ce sujet avec le succès qu'il a. Maintenant, il y a un gros reproche, moi, que je fais aux dirigeants de notre pays, c'est qu'ils refusent même d'analyser ce qui fait la France aujourd'hui, c'est-à-dire de refuser les statistiques ethniques. Je pense que c'est une sottise monstrueuse de ne pas savoir quelle est la composition... Je n'ai pas fini. Quelle est la composition de notre pays ? Pourquoi ? Parce que le problème que va connaître Zemmour et que nous connaissons tous, c'est que la plupart de ces gens-là sont des Français. Et je ne sais pas comment on fait. Les binationaux, on peut, quand ils se tiennent mal, peut-être trouver le moyen de les réexpédier d'où ils viennent. Les Français, c'est extrêmement compliqué. Moi, je trouve lamentable qu'on ne mène pas le début de la connaissance de ce qui fait. Ce n'est pas pour des raisons racistes ou autres. Ça serait quand même bien normal que l'on sache qui compose ce pays. Tout le monde dit tout est le contraire de tout. Il y en a 6 millions, il y en a 8 millions, il y en a 10 millions. On ne le sait même pas. Je veux dire des migrants. Il faudrait peut-être qu'on se décide à dire la vérité aux Français, à la connaître, à la dire, et à partir de là, envisager des solutions.
Un tout petit mot, Maître Gonadel, pour clôturer le sujet.
Oui, enfin bon, je n'ai pas besoin de statistiques ethniques pour savoir que mon pays est envahi, hein. Très sincèrement. Et maintenant, les Français ne sont pas dupes de ça. Simplement, pardon, moi, je n'ai pas été choqué du tout par la réflexion de Zemmour sur le fait que finalement, ceux qui, depuis 30 ans ou 40 ans, abusent les Français sont dans la clownerie. Mais la réalité aussi, c'est que même... Il y a eu un article dans le Figaro il y a 2-3 jours qui était très intéressant. C'est de voir que en Europe, très clairement, l'Europe est une passoire totale. Mais à l'intérieur même, quand on compare les pays européens eux-mêmes, la France est la plus grande passoire. Donc, mais cela étant, demain matin, Zemmour est au pouvoir. Si on ne change pas les lois françaises et européennes avec la Constitution, on ne peut rien faire.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On poursuit cette discussion. On évoquera aussi la question des toxicomanes à Paris. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1. On évoquait l'hypothétique candidature d'Éric Zemmour. Vous disiez aussi, Céline Pina, fondatrice de Vivre la République, il ne faut pas oublier les Gilets jaunes. Il n'y a pas que les obsessions sur l'immigration, il y a aussi toute cette France qui se sent oubliée, complètement mise de côté.
Oui, parce que finalement, les Gilets jaunes qui sont révoltés au point qu'à un moment donné, on a même pensé, en tout cas Emmanuel Macron a même pensé que sa présidence pouvait se casser la figure. Il y a eu une vraie peur un de ces dimanches de décembre. Ces gens-là, on est en train de les oublier dans cette campagne. Ils sont toujours là et les problématiques qu'ils ont posées ne sont absolument pas résolues. C'était des problématiques d'aménagement du territoire, c'était la question des déserts médicaux, c'était la question de toutes ces petites villes, de tout ce patrimoine auquel les gens sont attachés. Vous avez énormément de villes de entre 10, 20, 30 000 habitants qui sont en train de dépérir et de mourir, de gens qui n'ont pas envie de quitter les lieux où ils sont nés, où ils ont grandi, et surtout pas pour aller dans l'hyperconcentration des villes qui leur semble être un enfer et qui s'est révélé aussi quelque part un enfer sanitaire au moment où on a vécu le Covid. Or, toutes ces questions, toutes ces problématiques d'aménagement du territoire, toute cette question de comment redonner vie à cette France et de ne pas en faire des pôles où tout le monde est les uns sur les autres et des grands déserts dans lesquels les gens se sentent abandonnés, cette question-là n'est absolument pas prise en charge et pourtant elle est extrêmement prégnante aujourd'hui.
Jean-Garrigue, et puis après on parlera d'Emmanuel Macron.
Juste un petit mot, parce que là aussi, je pense que... Sur le fond, je peux être d'accord avec ça, mais c'est peut-être un tout petit peu caricatural. Il me semble malgré tout que, d'abord, de la part du gouvernement, des efforts sont faits. Si on regarde un petit peu l'action de ce gouvernement, je pense à quelqu'un comme Jacqueline Gourault, qui était ministre de la cohésion du territoire. Je ne sais plus si son titre aujourd'hui encore. Quelqu'un qui connaît très très bien toutes ces problématiques, qui est une élue de terrain. Je pense que des efforts sont faits. Je ne dis pas qu'ils soient suffisants, mais ils sont faits. Je pense qu'un candidat comme Xavier Bertrand construit aussi une partie de sa campagne sur cette idée-là. Il est le candidat des territoires, il a une expérience de la région, il se dit proche des réalités, justement, de ces petites villes, de cette France un peu oubliée, qu'on appelle périphérique pour des raisons qui ne sont pas forcément géographiques, hein, mais je comprends bien ce que veut dire Céline.
Concrètement, pour l'avoir vécu dans les endroits où je vis, suite à la grande tournée d'Emmanuel Macron, on a promis des sortes de maisons de services publics en disant on va redynamiser. Il se trouve que pour vivre là-bas, ce que ça donne, c'est vous voyez, la poste, il y a beaucoup moins de gens. On va repeindre une salle. Et dans cette salle, on va mettre des permanences. Sauf que les permanences, on ne sait toujours pas qui c'est, que les maires ne sont absolument pas associés à cette mise en place et qu'aujourd'hui, ça ne donne pas d'élan très fort.
Il y a une maison de santé où lequel le maire est totalement associé. Ça s'appelle Châtillon-sur-Loire. Et ça marche du feu de Dieu.
La maison de santé, c'est souvent les communautés.
Se mettent en place.
La maison de santé, c'est souvent les communautés de communes qui les mettent en place.
Peut-être, oui.
Sur l'abandon de ces communes qui souvent n'ont pas les ressources, par exemple, ce qui va leur manquer, c'est la possibilité de comprendre comment est-ce qu'on va faire un grand ouvrage, une route. Elles n'ont pas les compétences nécessaires. Là-dessus, elles attendaient beaucoup de cette offre-là. Et cette offre ne s'est pas concrétisée.
Juste un petit mot, Jean-Claude, parce que vous vouliez évoquer le sujet que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que le président, en ce moment, est... en campagne et qu'il ouvre grand le chéquier à chaque déplacement. Il y a quelques millions d'euros à la clé. On a comptabilisé, hein, c'est entre 6 milliards d'euros à peu près débloqués jours.
Si on avait des doutes sur le fait que la campagne électorale soit quasiment commencée, il faut les lever, ces doutes. Bien évidemment que le président va non seulement être candidat, mais qu'il fait tout, peut-être trop, pour se présenter sous les meilleurs auspices. Et c'est vrai qu'entre ce qu'il a lâché à Marseille, ce qu'il lâche sur les problèmes de sécurité, de rénovation urbaine, j'ai même vu que pour nos confrères, je m'en félicite, pigistes, qui ont un peu moins travaillé pendant le Covid, il a débloqué 30 ou 32 millions d'euros. Tant mieux pour eux. Mais je veux dire, là, on est sur l'État nounou, qui s'occupe à peu près de tout, qui dépense des milliards. Ça ne serait pas trop grave si nous étions, l'Allemagne ou un pays dont les finances publiques sont bien tenues. Hélas, on était déjà avant le Covid dans une situation plus que préoccupante, en queue de tous les classements européens, que ce soit le nombre de chômeurs ou le montant des impôts. On en a rajouté considérablement pour le Covid. Là, je salue, il faut être honnête, l'action de Macron qui a été de distribuer, éviter qu'il y ait une crise sociale terrible.
Il crame la caisse, quoi, comme dit Valérie Pécresse.
Mais là, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que bon, il y a eu 117 ou 120 milliards de mieux. Enfin, je ne veux même pas citer de chiffres parce que ça n'a plus de sens à ce niveau. On est effectivement plus qu'avant couvert de dettes. L'inflation pointe un petit peu le bout de son nez. Attention au taux d'intérêt. C'est vrai que le pays n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de grosse expression du mécontentement. Mais c'est Noël avant l'heure, cher ami. Macron, on peut lui reprocher effectivement d'être un chécard un peu excessif. Mais quand vous avez Madame Hidalgo qui promet de doubler, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. On double les salaires de tous les enseignants. Il y en a pour tellement de milliards, parce que ça dure pour... Vous doublez, mais ça dure pour 30 ans derrière. Ça n'a ni queue ni tête. Bon. Donc,
c'était le coup de gueule de Jean-Claude Dacier.
Non, ce n'est pas un coup de gueule, c'est très partagé. C'est un constat.
On avance.
On n'a peut-être plus les moyens d'en dépenser autant, mais j'ai sans doute tort.
J'ai lu l'âme Vananel.
Un tout petit mot là-dessus.
Non, mais il y avait Philippe Lebel qui créait de la fausse monnaie. C'est maintenant Emmanuel Lebel. C'est réellement ça. Les seuls qui n'ont rien, c'est les avocats pénalistes. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas quelque chose pour les avocats pénalistes. On sous-estime le drame des... Non, mais écoutez, je dis ça.
Sauf que Philippe Lebel avait les moyens de tuer les banquiers.
Oui, ça c'est vrai. Et pas seulement les banquiers, d'ailleurs. Mais plus sérieusement, il a fait le quoi qu'il en coûte. Ça se comprend parfaitement. Je rejoins tout à fait, en vérité, l'analyse de mon excellent voisin. Mais là, la France est dans un état de surendettement tout à fait particulier. Et je n'avais pas vu, il va aller jusqu'au bout avec de la fausse monnaie. Et il suffit absolument que l'inflation remonte un peu et que les taux d'intérêt remontent avec eux. On sera dans une catastrophe financière. Total, on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de préparer. Et je ne sais pas, à force de donner à tout le monde, d'une certaine manière, il ne donne à personne. Je ne sais pas.
France qui tend la main.
Je ne suis pas sûr, très sincèrement. Okay. Je n'y connais pas grand-chose là-dessus, mais je ne suis pas sûr que psychologiquement, c'est le cas de le dire, ça sera mis à son crédit. En tous les cas, pas celui de la France.
J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour évoquer le sujet de la toxicomanie à Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, devait se rendre ce soir dans l'un des points sensibles de la capitale en matière de toxicomanie, le pont Riquet. Visiblement, sa visite a été précédée par un grand nettoyage. Il y a beaucoup d'agents de la ville qui sont venus provoquant quelques sarcasmes du côté des habitants. Donc voilà, on voit là des nettoyeuses en marche qui nettoient tout ce quartier du Pont Riquet où il y a beaucoup de toxicomanes accros au crack. Ça suscite des réactions très mitigées du côté des habitants. On va écouter justement une commerçante qui explique à quel point la vie est devenue très compliquée pour tous ceux qui vivent dans ces quartiers où les toxicomanes sont en permanence dehors. Écoutez-la.
On a perdu la moitié de notre clientèle due à des vols qui avaient lieu en terrasse, dû aux agressions physiques, notamment des crachats, des insultes verbales. Il y a eu des agressions physiques aussi. Il y a eu des vols de sacs et il y a eu des chapardages en fait dans les plats directement, où ils se servaient dans les plats de nos clients. Et malheureusement, on ne pouvait rien dire. Enfin, On était un peu démunis face à la situation, donc on a mis en place un agent de sécurité qui est là du lundi au dimanche midi. Les gens avaient peur de se remettre en terrasse, on a perdu beaucoup de monde. Le quartier a été déserté, il y en a énormément qui déménagent ou qui changent clairement de quartier pour aller déjeuner. Ou qui prennent à emporter pour pas être embêtés justement dans la terrasse.
Céline Pina, ce sont des zones de non-droit, ces zones où effectivement on peut plus vivre normalement, on peut pas manger en terrasse, on a peur de se faire agresser en permanence.
Bah oui, je pense que quand vous voyez des gens qui en arrivent à déménager, parce que c'est ce qu'elle explique aussi, c'est qu'ils jugent la vie non seulement insupportable, mais qu'ils n'attendent plus rien des pouvoirs publics, et qu'en plus, je rappelle que la situation dure quand même depuis très longtemps. Qu'il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites et qu'aujourd'hui, personne ne peut plus les croire. Le problème, c'est que pour qu'on puisse se fonder sur une parole, il faut que derrière, il y ait une action et que cette action soit durable. Sur ces questions-là, pour l'instant, on voit en tout cas une ville de Paris ou un préfet de police de Paris qui n'arrive absolument pas à gérer la situation et à installer une sécurité normale.
Jean Garrigue, un tout petit mot.
Ça fait des mois qu'on parle de ces questions. On est passé de la colline du crack au jardin du crack. Maintenant, j'allais dire, c'est les terrasses du crack ou du deal. Donc, c'est vrai qu'on se demande ce qui se passe au niveau des autorités, qu'elles soient municipales, Anne Hidalgo d'un côté, l'État de l'autre. On a toujours l'impression qu'on se renvoie la balle, qu'on essaye surtout de mettre le problème sous le tapis. On se dit que c'est quand même pas forcément des problèmes qui sont insolubles. Mais ça renvoie aussi, on parlait tout à l'heure de déserts médicaux, ça renvoie aussi à des gros problèmes d'équipement, notamment en psychologie de sanitaire, etc. Il y a énormément de soucis de ce côté-là. Et on manque de personnel, on manque de locaux et on essaye comme ça de... Mais alors, plutôt que de s'occuper du salaire des enseignants qui mérite d'être valorisé, peut-être qu'il faudrait aussi s'occuper là de personnel dédié pour ces problèmes.
Jean-Claude Dacier ?
J'ai oublié de dire que si on revalorise le salaire des enseignants, il faudra expliquer que pour les autres fonctionnaires, il n'y a rien.
C'est ça.
Ah oui, c'est ça. Oui, ça va être compliqué.
Sur ce sujet-là.
Sur le sujet qui
les
nous intéresse.
Les toxicomanes, voilà.
Ben moi, je suis pas... J'observe que l'État a de tels manquements dans tellement de différents domaines que je n'ose le réclamer et le donner en exemple. Mais enfin, dans les sociétés libérales, aux États-Unis par exemple, on laisse à peu près tout le monde faire ce qu'ils veulent. Et ça donne parfois des images qui sont difficilement supportables de gens qui se baladent avec la drogue à la main. En France, on n'en est pas là. L'État, c'est son job numéro un, c'est de régler ce genre de problème. Et je n'arrive pas à comprendre, moi si on veut m'expliquer, je ne suis pas têtu, je comprendrai aisément, mais je ne comprends pas que sur les quelques dizaines ou centaines de drogués au crack, qui sont des malades...
Ils ont la dose à la main. Hein,
qui sont, voilà, je ne comprends pas, que l'État n'ait pas les moyens de dire, jeunes gens, on arrête, maintenant chacun passe ici dans l'autocar, on prend vos coordonnées, qui êtes-vous, d'où venez-vous, que faites-vous, et on vous soigne. Il y a des établissements, il y a encore de la place dans beaucoup d'anciennes casernes, à condition de préparer. On ne peut pas y aller n'importe comment. Là, on les prend à la colline du crack, on les emmène ailleurs et on croit qu'on a réglé le problème. Ça n'a pas de sens.
Il y a beaucoup de mineurs migrants aussi. Alors, et une violence très importante.
Maître Gonadel,
si on veut regarder, Cécile Pina me l'enlève de la bouche, et si on veut regarder le problème de manière pratique... les principaux distributeurs qui sont en même temps victimes du crack, c'est les migrants, soi-disant mineurs ou pas, isolés. Et cela, on ne peut pas rien en faire. Et l'État est bien plus responsable que la municipalité, sauf que l'État a été masculé et que la municipalité, est, malgré tout, trouvait que la migration, c'était quelque chose de formidable et expliquait qu'ils étaient bienvenus à Paris. Donc, comment voulez-vous que les riverains...
C'est insoluble pour les riverains voilà.
De ces quartiers qui étaient souvent des bobos, entre nous soit dit. Ils ont pris un coup de réalité encore... Ce sont les bobos d'il y a 10 ans hein, qui sont le premier sur le pont. Voilà, donc on est malheureux en périphérie et on est malheureux à Paris. Voilà.
Avec Jean Garry, encore une fois, une impuissance des pouvoirs publics. Oui. Municipalité qui renvoie la balle à l'État, qui renvoie la balle au préfet.
Franchement, à ce niveau-là, et je répète, parce que ça fait des mois qu'on en parle, on se demande comment on n'a pas pu mettre en place une sorte de plan d'urgence, quelque chose d'exceptionnel en investissement. Ben justement, comme tu parlais tout à l'heure de ces investissements dans sécurité, logement, etc. Là, quelques dizaines de millions pour résoudre le problème. Il me semble quand même... Alors, sauf à considérer qu'il y a aussi des barrières juridiques. Et que, c'est ce que je reprends là, c'est que ce côté-là...
Genre, il y a trouble dans la République. Oui, donc, mais... je vois pas comment... Il y a trouble profond, répété, permanent, à l'ordre République.
Notre législation.
Donc, moi, je veux bien que l'État de droit... Oui, non, mais je t'écoute.
Et,
oui.
ne réprime pas suffisamment.
Céline Pina, je pense qu'il y a un problème juridique et il y a un problème matériel. C'est-à-dire que tous les témoignages font état que ces mineurs migrants sont d'une hyper-violence et sont quasiment ingérables. En plus, en ayant le cerveau à moitié grillé par la drogue. Encore faut-il pouvoir les enfermer. C'est absolument pas des gens. Si vous pouvez peut-être les désintoxiquer, mais ça prendra en tout cas un temps fou. Donc il va falloir avoir des structures dans lesquelles les enfermer et dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir. Absolument. Ces structures-là n'existent pas.
Et non.
Elles n'ont pas été construites. Le pire, c'est que ce qu'on oublie de dire derrière, c'est que l'ASE
l'aide sociale
dépense,
à l'enfance.
Voilà, dépense quand même tout son argent pour prendre en charge ça. Et pendant ce temps, la misère de l'ASE et la prise en charge des enfants dans le besoin qu'eux, on pourrait aider et sauver sans mettre des milliards sur la table, eux sont complètement abandonnés. Donc tout cela laisse les citoyens, quand ils voient ce qui se passe au bout de la chaîne, sont complètement écœurés. Et c'est la parole de l'État qui en prend un coup.
Maître Gonadel.
Pour montrer la difficulté extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons, c'est que des prétendues organisations qui défendent les droits de l'homme se sont rebellées contre le fait qu'on devait pouvoir voir par l'âge osseux pour déterminer ceux qui sont mineurs de ceux qui ne le sont pas. Et favorisent par ailleurs l'immigration massive. C'est-à-dire que ceux qui sont censés défendre les droits des hommes, les droits de l'homme, sont ceux qui les piétinent.
Alors, Jean-Claude, un dernier mot.
Un dernier mot, c'est une conclusion, j'espère provisoire, mais je n'y crois pas trop, qui est terrible. C'est de constater que l'État ne fait rien, car il ne peut rien faire. Mm-hmm. Il ne sait pas. Il n'a pas les moyens d'agir, donc il ne fait rien. Et ça peut durer.
Mais il y a les moyens d'agir, que ce soit en termes sanitaires,
mais il faut bien constater que depuis des mois, il n'agit pas, car je crois qu'il ne sait plus où les mettre, il ne sait pas comment les soigner, il ne sait pas de quelle façon, il ne sait rien. C'est un échec terrible.
Il suffira d'un téléphone portable, parce que pour arrêter ce type de personne, ça ne va pas se passer dans la gentillesse, l'amour, et monsieur, voudriez-vous grimper dans ce fourgon, s'il vous plaît. Ça va se passer avec énormément de violence. Il suffira d'un petit film et tombera sur l'État, racisme, violence policière, etc. C'est très compliqué. On est dans une situation où l'État lui-même s'est lié les mains.
En un mot, Jean Garrigue, 30 secondes.
Non, en un mot, peut-être aussi derrière une sorte de jeu un petit peu pervers entre la municipalité de Paris et l'État pour se renvoyer la balle
en permanence.
Céline a raison, on est à 200 jours de la présidentielle. Personne ne veut prendre de risque de voir ces images.
Voilà.
Il vous ferait traiter d'enfermiste, de facho. Ça serait terrible pour l'homme ou la femme qui aurait pris la responsabilité.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. C'était formidable. Merci Maître Gonadel, Jean-Claude Dacier, Céline Pina, Jean Garrigue. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bonne soirée à vous sur nos antennes. Sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et moi, je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour Punchline à suite. Bonne soirée à vous.
Laurence Ferrari sur Europe 1.